dénomination de voie publique. Monsieur Fonté.
Bien, monsieur le maire, chers collègues, là aussi je vais aller très vite. Alors, même si je vais apporter quelques précisions. Alors, vous avez parlé de Verlaine, c'est très bien. Alors, Paul Tornow, Paul-Joseph Schmitt, ancien d'Indochine, il s'agit de baptiser à la fois des voies publiques et un carrefour, un giratoire. Alors, Paul Tornow, vous le connaissez tous, on en a assez parlé, c'est l'exemple même d'une modification du patrimoine. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans le débat de Métis, on nous reproche de faire bouger des lignes urbaines, d'urbanisme et certains murs, square Boufflers, etc. Tornow, c'est l'exemple même d'un monument historique auquel il a apporté une modification d'importance en modifiant totalement le portail de Blondel. Et ça n'a pas fait scandale à l'époque.
Si,
ça a fait scandale, certainement.
Ça voilà. A bagarré dur. Hein.
Alors, autre exemple dans la modification de l'espace urbain, cher Patrick Thiel, chers collègues, vous qui êtes un féru d'histoire et de patrimoine, cette place d'armes magnifique ici, que tout le monde trouve magnifique, esthétique, etc. Mais savez-vous ce qu'elle était avant et comment le maréchal de Belle-Île et Blondel l'ont transformée? Tout simplement en rasant le palais épiscopal, l'hôtel de ville de l'époque, deux églises, un cloître, trois chapelles et quelques maisons particulières. Alors vous voyez qu'une ville évolue avec le temps et l'histoire, et qu'elle bouge, et que la modernité, et c'est aussi faire évoluer une ville et mettre en valeur son patrimoine. Donc voilà, vous allez baptiser une rue Paul Tornow, avec grand plaisir, mettre Paul-Joseph Schmitt également, puisque ancien évêque, ancien résistant, et mérite bien ça, ancien d'Indochine, parce qu'il faut bien honorer les campagnes du colonel ici présent, et ses collègues. Voilà, la mention est en conséquence.
Attends, j'y vais.
Les noms de rue, c'est magique. Et on en a encore plein en réserve. Alors, il faudra même peut-être plusieurs mandats pour arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire en ce qui concerne les noms de rue. Madame Zimmermann, Monsieur Lebeau, Monsieur Thiel, Monsieur Maréchal et le colonel Planchette. La nuit est à nous, on y va.
Non, ça va être
alors, Madame Zimmermann.
Ça va être très rapide, Monsieur le maire. C'est simplement pour vous dire que je suis très heureuse que, là aussi, vous ayez accepté de donner le nom d'une rue à Mgr Paul-Joseph Schmitt. Ça avait été une demande qui m'avait été faite, que j'avais souhaité il y a, je crois, quelques mois. Donc, je vous en remercie. Ce que j'aurais peut-être souhaité, c'est que, au lieu de mettre, même si on disait le PJ, j'aurais souhaité qu'on mette Mgr Paul-Joseph Schmitt comme on a mis Mgr Pelt, si c'est possible.
On sera peut-être marqué évêque de Metz en dessous, hein, parce que...
Oui, non, mais je pense que, bon, c'est...
Ça dépend, on dit Jean 23, on dit pas...
Mais on,
ça se discute.
Oui, non, mais c'est simplement une remarque, ça sera vous qui décidez. Voilà, merci.
Alors, Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, je ne peux que vous féliciter de témoigner de la reconnaissance des Allemands ayant servi à Metz au cours de l'annexion de 1870 à 1918. Après Jean-Baptiste Koehn, il est juste d'honorer Paul Tornow, en attendant d'autres personnalités incontournables comme Conrad Van ou Adrian Thomas. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un principe odographique messin que vous galvaudez ce soir. En effet, les différents conseils municipaux messins ont insisté depuis 1919, c'est-à-dire 10 avril 1919, 11 octobre 1924, 18 février 1929, 31 mars 1930, 5 décembre 1938, 25 janvier 1952, sur le principe fondamental de l'intangibilité des noms de rue du Vieux-Metz, antérieur à 1870. Depuis 1945, trois entorses ont été commises. En 1946, quai Paul Vautrin, en 2003, le quai Richepanse, et en 2006, place Jean-Paul II. Ce chiffre va donc être porté à 5 en débaptisant, la rue Sainte-Glossinte et la rue du pont de la préfecture. Dans le premier cas, il s'agit d'honorer un évêque de Metz, Mgr Schmitt, pour son action de résistant. pourquoi vouloir à proximité de l'évêché quand d'autres évêques le sont sur l'ensemble de la commune ? Monseigneur Pelt, Monseigneur Heinz, Chordegan, Drogon au Sablon et Jean d'Apremont à Manille.
Dans le cas, il y en a encore d'autres. Hein.
Pardon ?
Il y a beaucoup d'évêques.
Oui, non, il y en a beaucoup. Non, mais voilà. Et le deuxième cas, vous voulez nommer un carrefour des anciens d'Indochine. Juste un petit clin d'œil, monsieur le maire. Lorsque vous avez été jeune maire, en 2008, vous avez expliqué à la presse qu'il y a trop de noms de rues de militaires et de curés à Metz. Et ainsi, ce soir, vous en rajoutez deux.
Merci. Monsieur Thiel.
Oui, je serai très court, monsieur le maire. C'est simplement aussi pour me réjouir notamment d'une rue Paul-Joseph Schmitt. On a retenu fondateur de la Molle et l'éducation populaire. On aurait pu retenir aussi le grand participant au Concile de Vatican II sur les idées de la théologie française qui, à mon avis, était très avant-gardiste et je m'y reconnaissais. Et vous savez quelle était la proximité que j'avais avec lui. J'avais d'ailleurs été à l'initiative de la rue Monseigneur Heinz qui a été son dernier acte public à la veille à la fois de son retrait du siège épiscopal qui était acté et malheureusement de son décès. Donc je trouve qu'il y a là un parallèle. J'espère que la rue sera inaugurée à une date et une heure qui me permettront d'être présent. Voilà.
Alors, colonel Planchette, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je suis très satisfait de cette décision pour le carrefour de Queuleu. Parce que je me suis battu depuis longtemps, le maire pourrait le dire, hein, je l'ai souvent demandé cette affaire-là. Et donc là, cette fois-ci, on va l'appeler ce carrefour des anciens d'Indochine. Alors, il ne s'agit pas de célébrer avec nostalgie la fin d'une période coloniale. Il ne s'agit pas non plus seulement de célébrer le martyr des soldats et des légionnaires français qui sont morts à Dien Bien Phu. C'est beaucoup plus que cela. C'est pour ça qu'on a mis anciens d'Indochine. Il s'agit de rappeler la mémoire de tous ces Français qui ont fait la France dans l'Asie du Sud-Est, en particulier en Indochine. Donc, c'est quelque chose de plus vaste que uniquement de se rappeler des combattants. Parce qu'il faut savoir que cette histoire de l'Indochine, elle est très mal connue aujourd'hui, très très mal connue. Et d'ailleurs, moi, je constate avec tristesse qu'elle est non seulement oubliée, mais elle est très méconnue, parce que je crois même qu'on n'enseigne plus guère cette histoire coloniale actuellement. Donc, si vous voulez bien m'accorder quelques minutes, parce qu'il est tard déjà, je vous dirai deux mots sur l'Indochine. Et puis, je vous dirai aussi ma grande satisfaction, avant de me lancer là-dedans, ma grande satisfaction, parce que ici, en Lorraine, nous sommes sur une terre déchirée, une terre de souffrance, une terre qui a été échangée entre les Français et les Allemands. Donc ici, nous avons beaucoup de catégories de combattants. Et je me suis aperçu qu'il y avait une seule catégorie qui n'avait même pas une stèle, même pas une plaque pour rappeler le martyr de tous ces soldats français. C'était les combattants d'Indochine. Alors ils m'ont souvent demandé d'intervenir, et là, cette fois-ci, je vois que ça aboutit. Mais je voudrais dire quand même un petit mot pour rappeler cette histoire, parce que le document qui vous a été mis sous les yeux, là, c'est pour vous dire si l'oubli fait du chemin. Vous voyez, présence française en Indochine, je crois qu'il y a de marqué sur le dossier 1887. Or, en fait, c'est faux. Bien sûr qu'en 1887, on y était, mais ça a commencé sous le Second Empire, avec Napoléon III, lorsqu'on était parti avec les Espagnols, encore expéditionnaires, pour défendre les chrétiens qui étaient persécutés là-bas en Chine. Alors là, il y a tous les épisodes que vous connaissez peut-être avec les pavillons noirs, toutes ces choses-là. Et cette conquête, elle s'est poursuivie. Alors en 1858, on a pris Saïgon, la Cochinchine. Et à partir de la Cochinchine, on s'est étendu après en protectorat. Donc on a pris, après le Cambodge, on a pris l'Annam, le Laos, le Tonkin, et finalement on a fait l'Indochine française. Alors au début c'était des protectorats, ensuite c'est devenu une colonie complète. Et ça a toujours été un problème pour la France, parce qu'on a toujours été en difficulté avec la Chine. On s'est toujours battu contre la Chine pour maintenir ses possessions. Alors il faut savoir quand même que cette Indochine, c'était une région extrêmement riche, et le tort peut-être qu'on a eu, c'est qu'on en a fait une colonie de, On en a fait une colonie d'exploitation et pas une colonie de peuplement. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la Thaïlande nous a attaqués. Et donc là, on s'est battu contre les Thaïlandais à partir de 1940. Ça a été le début des hostilités. Ensuite, les Japonais nous ont attaqués. Les Japonais nous ont attaqués le 9 mai 1945. Et là, ça a été terrible. Là, ça a été des dizaines de milliers de morts. Les Japonais, en deux ou trois journées, ils avaient fait un carnage. Et puis ensuite, ben, comme vous le savez, hein, ça a démarré, cette guerre a démarré, parce que les Japonais avaient bien fait le travail déjà pour nous sabrer. Hein. Et cette guerre a démarré le 29 novembre 1945, et elle devait durer jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu était en quelque sorte le point culminant de la décolonisation française, le plus dramatique, disons. Alors je voudrais dire un petit mot sur le martyr des soldats de Dien Bien Phu. Parce qu'il faut savoir que ces soldats ont été, non seulement oubliés de la nation française, je dis bien oubliés, mais ils ont même été méprisés. Quand on se battait en Indochine, cette guerre elle a duré quand même de 45 jusqu'à 54, hein, jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. Eh bien, il faut savoir que quand des soldats français rentraient d'Indochine et qui débarquaient à Marseille sur des civières, ou qui marchaient avec des béquilles, parfois, la foule les insultait, leur jetait des cailloux. Les politiques qui étaient responsables de cette opération, eux se baladaient tranquillement en vacances en France, personne ne leur disait rien. Alors je voudrais dire deux mots quand même sur ce martyr des soldats français. Cette guerre d'Indochine, elle a fait 30 000 morts. 30 000 morts, hein, c'est pas rien, c'est autant que la guerre d'Algérie. À la seule différence.
Français, hein.
Français. Si, français, 30 000, parce qu'il y en a eu 44 000 au total. Mais je dirais un mot sur les supplétifs aussi qui sont morts. Les supplétifs n'ont même pas eu la chance, si on peut appeler ça une chance, des harkis français. Ils ont été tous massacrés par le Viet Minh, à la chute de Dien Bien Phu. La bataille de Dien Bien Phu a duré 57 jours. Elle a duré du 13 mars jusqu'au 7 mai quand Dien Bien Phu est tombé. Et alors là, ça a été vraiment quelque chose d'atroce, et j'en suis ému quand j'en parle. Il y a eu là plus de 11 722 exactement prisonniers français. Il y a eu 3013 supplétifs qui ont été exécutés, lâchement, qui ont été exécutés, pas, leur sort était réglé, exécutés par le Viet Minh. Et ces prisonniers français sont partis dans une longue marche qu'on a appelée la marche de la mort. Ils ont fait 700 kilomètres à pied, dans la jungle, sans boire parfois. Certains mouraient d'épuisement. Et d'autres sont arrivés péniblement dans des camps qu'on appelait des camps de rééducation. Vous voyez ce que ça veut dire, rééducation? C'était l'action psychologique. Donc ceux qui ne se soumettaient pas à l'action psychologique étaient torturés et exécutés. Et pour vous dire si c'était terrible cette affaire-là, je vais vous citer un seul exemple. Parce que dans le raffinement, le raffinement de la torture, le Viet Minh était imbattable. Il y a des prisonniers qui étaient suspendus par les pieds, la tête dans un fourmilier, et les fourmis les dévoraient vivants. Oui, c'est pour citer un exemple. Alors certains préféraient se suicider, mais ils n'avaient pas toujours les moyens de le faire. Donc ces gens-là sont morts dans des souffrances atroces. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là-dedans, il n'en est pas rentré beaucoup. Hein, sur 11 700 et quelques, il en est rentré que 3200 à peu près. Ils sont rentrés dans un état sanitaire épouvantable. Vraiment un état sanitaire épouvantable. Malnutris, complètement déshydratés, avec des maladies tropicales. Donc finalement, il y en a encore qui sont morts après être rentrés. Pour vous dire si c'était terrible cette affaire-là. Donc vous voyez, ça a été un drame terrible, ce drame de la décolonisation qui s'est poursuivi après en Algérie. Mais je voudrais faire une observation avant de terminer ça, c'est que dans toutes ces guerres coloniales, ces sales guerres comme on a dit, eh bien on a toujours cherché à faire porter le poids de la responsabilité aux militaires, la responsabilité politique des opérations militaires. Or il faut quand même savoir que les militaires étaient des militaires au service de la République. Et je trouve qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de leur faire porter ce poids-là. Ces militaires-là, ils ont droit, ces morts-là ont droit à la reconnaissance de la patrie. Et je suis heureux qu'à Metz, on ait fait ce geste, parce qu'à Metz, il n'y avait strictement rien pour rappeler la mémoire de ce soldat mort en Indochine. Je vous remercie.
Merci, colonel. Je voudrais juste dire un mot sur... Maréchal. Monsieur Maréchal, mille excuses.
Oui, monsieur le maire. Je sais effectivement qu'il est tard. Je voudrais faire deux rapides réflexions. Moi, je suis un peu choqué quand même par la manière dont a été rédigée la réflexion, la motion concernant les troupes du Viet Minh. Je pense que c'est... On peut rendre hommage aux combattants victimes de la guerre, mais il faut le rendre... La formulation est malheureuse. Je suis très content de la rue Paul-Joseph Schmitt. Moi, j'ai un souvenir d'un article de presse dans Le Républicain Lorrain. Il était alors évêque et il posait à côté de jeunes de la JOC avec une phrase qui était à mes yeux importante et qui reste toujours d'actualité. Un travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Et je pense que ça montre effectivement qu'il peut y avoir un véritable ancrage social du côté de l'Église. Je voulais, si vous le permettez, vous faire une proposition. Le 15 février dernier, Ralph Konopnicki est décédé. Pour ceux qui ne le savent plus, Ralph Konopnicki était décédé, donc il est décédé à l'âge de 96 ans. Compagnon de la Libération, chevalier de la Légion d'honneur, il a démarré son engagement militant au moment à Metz, ici, comme syndicaliste à la CGT. Il était d'ailleurs, il a fait un court passage aux jeunesses socialistes. Il a été le fondateur, un des fondateurs du Front populaire en Moselle. Il a été un des syndicalistes, il a créé le syndicat des salariés des grands magasins messins. Et il a été très rapidement engagé dans la bataille contre la montée du nazisme. Il est mort donc tout à fait récemment. Je crois que c'est un personnage qui a marqué l'histoire sociale de cette ville. Je pense que quand on regarde le nom des rues de cette ville, on a très peu de témoignages de cette ville ouvrière, de cette ville du mouvement social. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage, surtout quand il s'agit de Ralph Konopnicki. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2007 à la fête du Chiffon Rouge. Il avait fait le déplacement. Il avait raconté un peu, à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la CGT à Metz, il avait raconté son combat, notamment son combat dans la résistance. Il a participé au combat pour la libération d'Antibes, pour la libération de Nice, pour la libération de Monaco. Moi, je crois que ce serait très important qu'on lui rende un hommage qu'il mérite, parce que c'est à la fois un témoin de l'histoire sociale, de l'histoire locale, c'est à la fois un témoin d'une des pages glorieuses de notre histoire, la résistance. Je vous remercie.
Merci. Alors, moi, je note la proposition de M. Maréchal qui est intéressante. On a beaucoup de propositions de noms de rues. Hein. Et les gens me proposent rarement de débaptiser des rues. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas du tout évident. Alors, je voudrais expliquer comment ces choses-là peuvent se faire. D'abord, il arrive qu'on débaptise des rues. Moi-même, je vous ai proposé de débaptiser des rues. Hein. Vous vous souvenez, à Bellecroix, on a débaptisé la rue Cavaignac parce que moi, je connais bien l'histoire de France. Je sais que Cavaignac, il a fait fusiller 4000 personnes dans les journées de juin 1948 et il en a expédié au bagne 10 000. S'agissant du quai Richepanse, j'avais proposé quand j'étais ici au milieu là, à mon prédécesseur, de débaptiser le quai Richepanse. Parce que Richepanse, tout en étant un brave général messin pendant la Révolution, il a été envoyé, je crois que c'était par Bonaparte, c'était sous le consulat, il a été envoyé en Guadeloupe, et là, il a tourné à la folie, il a massacré, chez 3 ou 4 000 Guadeloupéens, dans des conditions épouvantables, d'une folie meurtrière sans nom, et on devait être la dernière ville de France à avoir un quai Richepanse. Donc, pas une seule hésitation à débaptiser. On a débaptisé une autre, c'était Alexis Carrel. Alexis Carrel, qui était le prophète de l'eugénisme, et il y a effectivement, les Allemands ont appliqué, hein, l'exécution des handicapés mentaux que Alexis Carrel préconisait. Il avait des tas de vertus, Alexis Carrel. Il avait même eu le prix Nobel. Il avait été très, très ami de Pétain et il avait fait des travaux intéressants. Quand j'étais jeune, on nous faisait lire « L'homme, c'est inconnu ». N'empêche qu'il avait fait ça. Et j'ai fait débaptiser pour remplacer par Rossel, vous vous souvenez? Et s'agissant des rues que nous avons débaptisées là, je dois vous dire que ce n'est pas simple, mais quand on a un pont de la préfecture et une rue du pont de la préfecture, il ne faut pas exagérer sur le sentiment qu'on veut garder absolument le nom. Il y a des noms qui sont originaux, MLC, croyez, oh là là, s'il y en a un qui connaît bien le sujet, c'est ma pomme, et quelquefois je regrette des noms qui ont été supprimés. Hein? Effectivement, le quai Saint-Pierre et le quai Félix-Maréchal, c'est pas la même chose, et Saint-Pierre, c'était le nom d'une ancienne abbaye qui était là, et donc on peut discuter. Mais je me garde bien, moi, de débaptiser. J'ai des tas d'idées, d'ailleurs. Je peux vous dire que la rue Saint-Louis et la place Saint-Louis, ça tient pas debout, hein, vu de l'extérieur. Il n'empêche que je ne veux pas débaptiser la rue Saint-Louis, parce qu'il y avait une abbaye Saint-Louis qui était là, et je ne veux pas changer le nom. Et donc, je connais bien mon histoire locale. Et donc, il y a des lettres qui s'égarent, c'est mal foutu, et quand on est de l'extérieur, on dit quoi, vous avez une rue Saint-Louis, une place Saint-Louis, qui sont même pas au même endroit. Enfin, ça, place Sainte-Glossinte, regardez, une impasse Sainte-Glossinte, un. Une rue Sainte-Glossinte, deux. Une place Sainte-Glossinte, trois. Eh bien, Paul-Joseph Smith, il est très bien près de l'évêché, il était là. Et donc, Sainte-Glossinte n'a pas disparu, puisqu'il y a toujours une place Sainte-Glossinte et une impasse Sainte-Glossinte. Et donc, le lieu est préservé, et j'ai résolu la question difficile de Mgr Paul-Joseph Schmitt, pour qui j'avais des pressions amicales de gauche et de droite, pour lui donner son nom. C'est comme ça qu'on y est arrivé. Alors, y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas, des abstentions non plus? Ben, écoutez, voilà. Et merci au colonel pour son cours sur l'histoire de l'Indochine.